Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute d'une heure pour convaincre. Une heure pour convaincre, votre émission qui donne la parole aux acteurs de développement de la région de l'Extrême Nord. Nous nous intéressons aujourd'hui au Conseil régional en tant que collectivité territoriale décentralisée qui a pour mission principale de développement local. Depuis son institution en 1996, c'est seulement le 6 décembre 2020 que les toutes premières élections de ses membres ont eu lieu. Le décret disposant de son organigramme est disponible depuis le 28 décembre 2021. De par ce décret, le Conseil régional peut déjà entrer en jeu et son président constituer l'équipe qui va l'accompagner dans ses différentes tâches. Une heure pour convaincre, bien au-delà de vous présenter la plus-value du conseil régional dans l'administration locale, va donner la parole aux populations de la région sur leurs attentes vis-à-vis de cette institution, qui est un acte qui matérialise le couronnement du processus de la décentralisation au Cameroun. En posture d'invité, nous aurons le président du tout premier conseil régional de la région de l'Extrême Nord, Daniel Calbasso. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'écoute de votre émission « Une heure pour convaincre ». C'est quoi le conseil régional? Pourquoi sa création? Quel est son rôle? Telles sont les questions qui taraudent l'esprit des populations de la région de l'Extrême Nord depuis la création de cette collectivité territoriale décentralisée. Allons donc mieux comprendre ce que c'est que le conseil régional dans ce reportage de Zouéra Touyaya.
Institué par la Constitution du 18 janvier 96, qui a prévu en son article 55 que les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes, si l'institution communale est antérieure à cette charte fondamentale, tel n'est pas le cas pour les régions dont la création date de la dite Constitution. Le Conseil régional est l'organe délibérant de la région. Il est constitué des délégués départementaux et des chefs traditionnels du territoire circonscrit de la dite collectivité territoriale décentralisée. Il est composé de 90 membres, dont 70 délégués départementaux et 20 représentants du commandement traditionnel. À la faveur des transferts de compétences, le Conseil régional intervient dans différents domaines. Pour ce faire, plusieurs commissions sont mises sur place. La Commission des finances et des infrastructures, du plan et du développement économique, la Commission de l'éducation, de la santé, de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports. À cela s'ajoute la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des domaines de l'urbanisme et de l'habitat. Et enfin, la Commission des affaires administratives, juridiques et des règlements. Le Conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il donne des avis, formule des vœux, il est tenu informé de l'état d'avancement des travaux menés par la région et est obligatoirement consulté pour la réalisation sur son territoire de tout projet d'aménagement ou d'équipement de l'État, des communes ou de tout organisme public, parapublic ou privé.
Thank you. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, le Conseil régional est le parachèvement du processus de la décentralisation entamé il y a plusieurs années au Cameroun. Il est un acteur capital qui interviendra désormais dans les actions de développement local de nos régions. Alors que le décret portant sur son organigramme vient d'être rendu public, les populations formulent déjà de nombreuses attentes à l'endroit de cette institution à travers laquelle le peuple se verra au centre de la gestion des affaires publiques. Écoutons les populations de la région de l'Extrême Nord qui font connaître leurs attentes dans ce micro-trottoir.
Il y a les emplois, la création des emplois. C'est ça qui fait à ce que les jeunes ont des diplômes mais sont en train de chômer. Comme l'agriculture doit être améliorée, la production de céréales, bon, les routes doivent être bitumées. Ça, il faut se rapprocher des populations ainsi que de certaines infrastructures pour pouvoir améliorer, comme les impôts. Ce sont des trucs à voir. On doit voir qui sont les vrais commerçants. Il y a certains impôts qu'on appelle les patentes. Là, il y a des gros commerçants ainsi que les petits commerçants. L'État doit voir réagir sur ces impôts. Ils en ont cette capacité. Ils ont été élus pour ça.
Voilà ce que j'attends du Conseil régional, comme son nom l'indique, qui a été mis en place par le chef de l'État pour le développement de la collectivité territoriale décentralisée. C'est que nous souhaitons qu'il y ait effectivement des projets concrets de développement dans la région, dans toute l'étendue de la région de l'extrême nord. Par exemple, nous pouvons citer les salles de classe, les hôpitaux, l'amélioration dans le secteur agricole, l'électrification, bref, dans tous les secteurs sociaux et le développement que la région de l'Extrême Nord a besoin. Voyez-vous, tout récemment, le président du conseil régional et son équipe a fait une grande tournée dans toute l'étendue de la région de l'Extrême Nord, dans les 6 départements. Ce qui fait que les populations, dans son ensemble, dans les 6 départements que compte la région de l'Extrême Nord, attendent comme moi aussi des projets porteurs, des projets qui, dans le cadre social, peuvent changer la vie des hommes dans cette partie du pays.
Le conseil régional a été placé pour le développement des collectivités territoriales décentralisées. Comme nous le savons, le président du conseil régional a effectué tout récemment une descente sur le terrain dans les 6 départements de la région de l'Extrême Nord. Et de mon avis propre, je ne voudrais pas que ce conseil se limite seulement dans la ville de Maroua, que ce conseil s'étende effectivement, comme l'avait dit le président du conseil, dans le fond fin même des villages, dans le fond des arrondissements, dans le fond des départements, pour que effectivement des projets porteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'électrification rurale, les routes et puis bien d'autres projets.
Eh bien, s'agissant des attentes par rapport au conseil régional, elles sont nombreuses. Déjà, en fait, pour nous autres populations locales, nous voulons le développement. Et quand on parle de développement, ce n'est pas des projets d'envergure que nous voulons le développement au niveau local, des choses simples dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit de l'accès aux services sociaux de base, il s'agit, quand je parle services sociaux de base, je pense à l'école, je pense à la santé, l'accès à l'eau, et déjà à un niveau plus élevé aux infrastructures routières, parce que dans la région d'Extrême Nord, joindre deux villes et un chemin de croix, je veux parler de Maroua et Kousséri, plus précisément entre Moura et Kousséri. Donc, je pense que nous attendons beaucoup du conseil régional dans la mesure où nos conditions de vie de tous les jours ne sont pas déjà bonnes. Et si le conseil s'y met, je suis sûr qu'ils pourront le faire parce qu'ils ont la capacité et l'État leur donne les moyens, le pouvoir de le faire. Et en tant qu'acteur de développement local, c'est leur rôle. Donc, nous attendons beaucoup d'eux.
Mes attentes pour moi par rapport au conseil régional, c'est qu'il faut qu'ils travaillent effectivement dans le professionnalisme pour le développement de la région et qu'ils doivent aussi travailler sans pression, sans avoir la pression du pouvoir central. Et il faut franchement qu'ils veillent aussi à ce que les représentants locaux puissent aussi les accompagner dans leur travail afin que le développement doit suivre comme prévu dans les textes.
Fidèles auditeurs de Radio Océré, vous écoutez une heure pour convaincre. Comme annoncé, nous sommes allés au siège du conseil régional à Maroua à la rencontre de son président, Daniel Kalbassou. L'entretien, c'est dans un court instant.
M.
Monsieur Daniel Calbasso, vous êtes le président du Conseil régional. Merci de nous recevoir. Concrètement, quelles sont les prérogatives du Conseil régional?
Merci beaucoup. Radio Auxerre est devenue jusqu'à moi pour me poser des questions et voir un peu ma vision des choses en ce qui concerne le développement. Quelles sont les prérogatives du Conseil régional? Notre mission, c'est le développement social, économique et social de la région dans tous les domaines, en passant par l'économie, la transformation de nos produits, la culture, l'élevage, le sport, la santé, l'éducation, les routes, donc la culture dans tous les domaines de développement de l'être humain. Nous avons quelque chose à faire. Donc voilà, c'est ça.
Ok. Et plus précisément, quel est le rôle et l'étendue des pouvoirs du président du conseil
régional? Bon, le président du conseil régional, son rôle consiste donc à gérer d'abord le conseil régional. J'aurai, d'après l'organigramme qui est sorti, j'aurai une cinquantaine d'employés. Et mon rôle est d'abord de gérer ça. Deuxièmement, le rôle, c'est le développement. Développement, c'est-à-dire aller négocier avec les partenaires, que ce soit l'État, ou les organismes internationaux, ou les privés comme vous, c'est pour avoir des contrats. Tout ce qui entre dans le développement, on doit rechercher le financement et trouver des partenaires, des entreprises qui puissent réaliser ça. Et notre rôle est aussi de développer l'entrepreneuriat local. Il faut qu'on ait des hommes d'affaires. On ne peut pas se développer sans hommes d'affaires.
Tout à fait. Et le 28 décembre 2021, le décret portant organisation type de l'administration régionale a été rendu public. À quand la mise en place effective de l'administration du Conseil régional de l'Extrême-Nord?
Bon, mais le décret a dit qu'on a 6 mois pour mettre en place. Donc, cela veut dire que dès janvier, nous avons commencé déjà à étudier tous les dossiers. Et certains dossiers, on doit obtenir l'accord du Conseil régional. Donc, le Conseil régional, sa prochaine session est prévue en mars. Donc, tout ce qui demande l'accord du Conseil régional, on va le soumettre d'abord au Conseil régional, la session de mars, pour approbation. Et la mise en place, on ne peut pas dire qu'on va recruter 50 personnes en une fois, ça sera progressif. Mais on va démarrer quand même par les postes les plus importants, les plus urgents qui font avancer le développement.
Ok, j'allais en venir. Quelles sont les étapes du processus de mise en place de cette administration? Est-ce que vous avez des priorités?
Oui, on a forcément des priorités. Dans notre budget actuel, on a mis les priorités dans le social, c'est-à-dire l'éducation, la santé et les routes, okay, qu'on ajoute parce que c'est un élément prioritaire. Donc, sur la base de ça, l'agriculture, tout ça, sur la base de ça, l'environnement aussi, sur la base de ça, on a des priorités, effectivement, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut commencer quelque part et on avance.
D'accord. Monsieur le président du Conseil régional, quelle est la composition du Conseil régional?
La composition. Actuellement, le Conseil régional a un président exécutif, c'est moi.
Oui.
Et si membre du bureau, constitué de 2 premiers vice-présidents, 1 vice-président, 2 questeurs et 2 secrétaires. Ça, c'est le bureau exécutif. Maintenant, on nous a nommé un secrétaire général qui est là, un receveur régional qui va gérer le financement, l'argent et tout, qui est là aussi. Et après ça, on aura donc le bureau du employés. On a 3 directions plus chef de service, direction, service et tout ça. Donc, voilà.
Ok, dans votre administration, c'est qu'il y a les conseillers régionaux. Comment ils sont élus?
Les conseillers régionaux sont élus par les conseillers municipaux. Il y a 2 catégories de conseillers régionaux. Il y a les conseillers. On a 90 conseillers régionaux. 90 conseillers régionaux, 70 représentent les communes. Donc, il y a un, suivant l'importance de la commune, 1 ou 2 conseillers régionaux par commune. Maintenant, il y a les représentants du pouvoir traditionnel de la Mibé. Il y a 20. OK, donc repartis aussi entre les 6 départements. Donc parmi les 90, il y a 20 représentants du pouvoir traditionnel, 70 représentants les communes. OK, c'est ça qui constitue le conseil régional. Et ils sont élus par les conseillers municipaux.
Ok. Monsieur le président du conseil régional, de par votre fonction, vous avez le devoir d'agir dans plusieurs secteurs. Avez-vous des actions concrètes que vous comptez mener déjà sur le plan sanitaire et social?
Si, on a prévu, puisque le budget de cette année 2021 était pour installer et pour asseoir la région. Mais à partir du budget de l'année prochaine, on a prévu effectivement des actions dans le domaine de la santé, équiper des centres de santé et équiper aussi les établissements secondaires. Parce qu'on nous a dit que la loi dit que l'enseignement primaire, c'est les communes primaires et maternelles. C'est le secondaire qui dépend de nous. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, dans les transferts de compétences, on n'a pas encore reçu les transferts de compétences dans les domaines concernés. Mais nous pensons que ça va sortir bientôt, puisque les autres sont déjà sortis. Donc ça nous permettra, dès l'année prochaine, de commencer à lancer le marché pour l'équipement des centres de santé et des établissements secondaires. On a dit qu'on a mis 3 priorités. Il y a ceux qui sont complètement démunis. On doit commencer par eux. Deuxièmement, ceux qui sont moins démunis. Et on verra les autres après.
D'accord.
Donc, c'est ça.
OK. Puisque vous avez amorcé la question éducation, la région de l'extrême nord est une zone d'éducation prioritaire. Ça, nous le savons. Quelle est votre vision pour améliorer l'image de la région de l'extrême nord dans ce secteur?
Ça, c'est une très bonne question. Et on a beaucoup étudié les rapports des sectoriels. Vous savez que dans les règles de l'UNESCO, il faut 3 enseignants pour 100 élèves. Nous, on a 1 enseignant pour 100 élèves. OK. Maintenant, le problème, c'est que on a des établissements primaires. L'année dernière, par exemple, on avait 1 100 000 élèves à l'école primaire. Il y avait combien d'enseignants? Il y avait 6 052 enseignants. Oh, le besoin est de 22 000. Vous voyez le gap. Sur les 22 000, il y a 6 052 de l'État. Il y a 4 000 enseignants des parents d'élèves. Ça fait 10 000. Il manque 12 000. Et le problème, ce sera donc, on attend la fonction publique locale pour voir comment nous, on peut intervenir. Puis cela aussi, c'est un transfert de compétences et la loi le permet.
Ok. Est-ce que vous avez pensé à agir au niveau des localités qui ont été affectées par la secte Boko Haram?
Oui, on a des projets. Mais il faut dire aussi que nous, on se base aussi sur le projet de l'État. Actuellement, il y a un projet de l'État et financé par le PNUD, ou du moins géré par le PNUD, le projet de redressement ou de réhabilitation des zones affectées par la secte Boko Haram. OK. Donc, ça concerne l'école, les bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux, les centres de sécurité, la police et tout ça, et en plus certaines routes. Donc, on va voir quelle est notre contribution. Notre contribution est aussi d'amener les gens à prendre en charge même les forages. On fait un forage dans un village, personne ne prend ça en charge, et après 1 an ou 6 mois ou 2 ans, ça tombe en panne. Notre problème, notre contribution aussi, de faire quelque chose de ce côté. On va voir quelles sont les zones, parce qu'on nous a demandé un développement équilibré. Là où l'État intervient, on doit voir si on peut faire dans des zones où il n'y en a pas. Là où l'État n'intervient pas, on va voir dans quelle mesure on peut coordonner toutes ces actions pour que ça soit efficace sur le terrain que la population prenne les choses en main et que nous puissions avancer et aller de l'avant.
Ok, Monsieur le Président, le Conseil régional est chargé du redressement économique d'une manière ou d'une autre de notre région. Sur le plan économique, quelle est la politique du Conseil régional?
La politique du Conseil régional, vous savez, nous, on a tout entré dans le développement. Nous avons fait déjà notre plan stratégique de développement de la région. Il a 4 axes. Premier axe, développement du capital humain et cohésion sociale. C'est le premier axe. Deuxième axe, développement économique, transformation ou promotion de la chaîne des valeurs agro-pastorales. Okay. Dans ce domaine, l'extrême nord est très bien pourvu, mais nous n'exploitons pas suffisamment ce que la nature nous a donné pour gagner de l'argent, pour se développer. Maintenant, notre rôle, ce sera de mettre l'accent là-dessus. Troisièmement, les infrastructures, c'est-à-dire routes et énergie. Et quatrième, l'environnement et gouvernance. Et on est en négociation avec des partenaires qui sont prêts à prendre en charge certains domaines comme celui de l'environnement. On est avec la coopération allemande, GIZ, avec le problème développement agricole, formation des paysans. On est avec l'Union européenne. Okay. Et dans le cadre de la santé, il y a la Banque mondiale qui a un projet là-dessus. On est en négociation. Dans le domaine de l'énergie, il y a un partenaire français qui veut bien développer l'énergie solaire ici. On est en négociation.
Ok. Et quelle est la planification du Conseil régional en ce qui concerne l'aménagement du territoire et les travaux publics pour l'amélioration de l'humanisme et de l'habitat?
Merci beaucoup pour cette question. Bon, le problème, nous, on voit ça d'une façon au niveau de la région, mais au niveau de chaque commune, c'est la commune qui est responsable. Nous, on ne peut pas se substituer à la commune. Mais par contre, on peut les appuyer, les aider pour l'aménagement. Et on a une vision claire sur ce problème. Parce qu'actuellement, on nous a demandé même de créer une ville moderne autour de Maroua dans un rayon de 15 kilomètres. Et nous avons demandé 350 hectares pour pouvoir créer une ville moderne autour de la ville. Mais notre vision, c'est se baser sur les plans communaux de développement, parce que chaque commune a son plan. Et notre vision, quand je regarde Maroua, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'espace de promenade, de jeux, il y a beaucoup, même les marchés.
Mais on peut créer.
Mais c'est ça. C'est ce qu'on va donc négocier avec les différents partenaires, avec les communes, comment on va créer. Même des centres de loisirs, du sport, des stades. Ce n'est pas un seul stade ou celui de l'école là-bas. Il va falloir qu'on ait au moins 2 ou 3 centres sportifs ici autour de Maroua et dans chaque ville. On est en train de négocier même avec le ministère des Domaines et des Affaires foncières pour qu'on ait dans chaque capitale départementale au moins 3 à 5 hectares pour développer ces activités autour des villes. Donc, c'est ça notre objectif.
Ok, Monsieur le Président, on comprend par là que chaque administration a ses prérogatives. Dans l'architecture précisément de notre décentralisation, il y a les communes, les mairies des villes et les conseils régionaux. En cas de conflit d'interprétation des textes entre ces différentes entités, qui est censé arbitrer?
Moi, je ne suis pas aussi pessimiste comme vous. J'espère qu'il n'y aura pas de conflit. Parce que chacun a son domaine et la loi bien définie. Les règles. Par exemple, si je prends les routes, il y a combien? 6846 km de routes dans la région. Il y a 700 km route nationale. Il y a 2000 km route régionale et 4000 km route communale. Donc, c'est déjà fixé. J'étais même en train de lire ça tout à l'heure. Si vous prenez la santé, ça sera comme ça aussi. Il y aura une classification en disant ce qui dépend de la région et des communes. Comme on a dit, l'école primaire dépend de communes où nous allons avoir le secondaire ou une partie du secondaire, je ne sais pas. Et maintenant, au niveau du développement de la ville, ou l'aménagement de la ville. On va négocier avec les communes. On dit que nous participons au plan d'aménagement de l'espace. Donc, on va discuter avec les communes. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a un conflit, il y a les autorités compétentes, on va sûrement se tourner vers le ministre de la décentralisation d'abord. Et si ça ne va pas, c'est la justice, peut-être qu'il peut aller, mais je ne crois pas qu'on va arriver jusque-là.
Ok. Monsieur le Président, on ne saurait parler de développement économique sans faire intervenir les jeunes. Nous le savons déjà, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes sont des questions préoccupantes à l'extrême nord. Que pouvez-vous promettre aux populations cibles?
Merci beaucoup. Ça, c'est une priorité des priorités. Vous savez, sur les 5 millions d'habitants de la région de l'extrême nord, 60%, ce sont des jeunes, moins de 30 ans. Et ce sera le grand problème. Il faut leur donner confiance en eux-mêmes, les mettre au travail. OK. Donc, tous les problèmes qui se voient un peu partout en général, ce sont les jeunes. Boko Haram utilise les jeunes parce qu'ils sont désœuvrés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord négocier avec vous, vous êtes jeunes, pour savoir quel est votre problème et comment on peut le résoudre. Alors, j'ai discuté même avec mes collaborateurs l'autre jour. Dans le budget 2022, on a prévu un forum sur l'entrepreneuriat féminin et jeune. Et des partenaires sont prêts à nous soutenir, comme le PNUD, mais le ministère de PME, le ministère de la Jeunesse. On va les associer, on pense qu'on pourra tenir ce forum pendant le premier trimestre de 2022 pour sélectionner des projets, des bons projets de jeunes et comment on peut les soutenir. On veut organiser, par exemple, l'activité mototaxi. Actuellement, il utilise beaucoup de jeunes, mais c'est en désordre. Comment on peut soutenir, comment on peut organiser mieux pour que ça soit plus efficace et que les gens se sentent à l'aise dans ce domaine. Donc, il y a l'environnement. Actuellement, on a un projet d'Anacard. Vous connaissez l'Anacard? Oui, puisque le prix sur le marché mondial est plus fort que le cacao.
Ok, les noix ou bien l'Anacard même?
Les noix.
Ok, les noix.
Noix, les petites noix là.
Oui.
Noix de cajou. Premier producteur, c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire. Produit de 100 000 tonnes. Le deuxième producteur, c'est le Bénin. Le Bénin est plus petit que toute la région de l'extrême, la région de l'extrême nord. Et on s'est dit, on va associer les jeunes et développer là, avec l'aide de ZEZ, développer la plantation d'anacard. Ceux qui ont des terrains, on va les encourager, les aider, les organiser et leur fournir les plants. Au bout de 3 ans, ça commence à produire et vous avez des fruits pendant 15 ans. Et en plus de ça, on produit aussi du vin à partir de la partie fruits de l'anacard. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on prévoit pour la jeunesse, okay, pour pouvoir relever les défis. Et l'autre élément que nous avons comme projet en tête aussi, avec la BAD, Banque africaine de développement, c'est développer l'irrigation. Et on compte sur les jeunes, okay, des retenues d'eau, parce qu'il pleut. Dans l'extrême nord, entre 700 et 1000 mm cubes par an. Et l'eau passe et dévaste tout. En Israël, il pleut quelle quantité? En Israël, il pleut moins de 100 mm cubes d'eau. Ils retiennent ça et vous allez en Israël, tout est vert, haut c'est le désert. Alors, nous, on peut retenir que 10% de cette eau. On développe l'irrigation ici pour que les jeunes produisent 2 fois. L'autre élément qui n'encourage pas la jeunesse dans l'agriculture et l'élevage, c'est à cause de la pénibilité du travail. Moi, j'ai fait le riz à Yagua il y a 50 ans. On entre dans l'eau, la boue jusque là, okay, et on marche, c'est très fatigant. Or, maintenant, il y a des petites machines qui peuvent faire tout ce travail-là. Ok, donc, la mécanisation, la petite mécanisation. Et actuellement, le développement de la région de l'extrême nord ne passe que par la mise au travail des jeunes, par la production, pas traditionnelle comme nous le faisons, mais moderne, moderniser ça. Et ça va rapporter de l'argent.
OK. Nous allons à présent parler de l'actualité qui prévaut dans la région de l'extrême nord. On sait que le gouvernement est à pied d'œuvre pour la résolution du conflit Massa-Mousgoumé-Arabchoua. Quel est votre apport dans la résolution de ce conflit? Que comptez-vous faire pour promouvoir le vivre ensemble et le multiculturalisme afin d'éviter de pareilles crises dans notre région?
Oui, ça c'est une bonne question puisque j'étais déjà accompagné le gouverneur deux fois dans le Logone-Charré pour essayer de rencontrer, discuter avec les protagonistes et comprendre le problème et trouver une solution. Mais moi, j'ai dit fondamentalement, le problème, c'est la pauvreté. Et maintenant, la rareté des ressources naturelles. Donc, partage de ces ressources naturelles.
La rareté des ressources naturelles dans le Logone-Charré.
Si, la rareté, ça veut dire que le long du fleuve, là, il y a l'eau, il y a les pêcheurs. Les pêcheurs veulent faire leur pêche. Donc, ils font des caniveaux, ils font beaucoup de choses. Maintenant, ceux qui font l'élevage ont besoin de pâturage dans cette zone parce que quand le feu de brousse passe, il y a repousse. Et les bœufs endommagent soit les champs, soit les canaux de pêche des pêcheurs. C'est ça le partage. Il y a là un problème d'espace et problème de pauvreté. Donc tout le monde étant pauvre, tout le monde se rue. Maintenant, chacun veut apprendre à avoir sa part. Et c'est ça qui crée problème. Donc l'apport du conseil régional serait d'enclencher le développement. Maintenant, la question qui se pose à moyen terme ou à long terme, et que je disais dans mon discours quand j'étais là-bas, que quand je suis né il y a 70 ans, le problème d'espace ne se posait pas. La population était peu nombreuse. Maintenant, 70 ans après, la population est passée de 1,5 million d'habitants à 5 millions. L'espace devient rare. On ne peut plus continuer à faire l'élevage ou l'agriculture comme on le faisait il y a quelques années. Le problème maintenant, c'est comment transformer cette activité, la moderniser pour qu'elle ne consomme pas beaucoup d'espace. Pour qu'il y ait l'eau partout. Parce que les éleveurs disent qu'ils envoient leurs bêtes pour aller boire. Et les autres disent que quand ils viennent boire, c'est des problèmes parce qu'il y a leurs poissons là-dedans. Alors, il faut trouver une solution. Donc, ça veut dire qu'à la longue, la région va réfléchir. On a promis même qu'on va faire une étude pour essayer de voir. Certaines études sont déjà faites. On nous a envoyé des rapports. Et l'État aussi a créé un comité qui est en train de faire l'étude pour trouver les causes profondes, sur la base de ça, quelle est la solution définitive? On ne peut pas tout le temps venir leur dire que calmer ou que vivez ensemble, mais c'est question d'intérêt, c'est trouver le problème pour résoudre ce problème d'intérêt. Donc c'est ça le vrai problème.
D'accord, Monsieur le Président, depuis votre prise de fonction, est-ce que vous avez décelé des quoi qui pourraient vous empêcher de bien mener vos objectifs?
Ah, il y a toujours des handicaps, il y a toujours des problèmes. Il y a d'abord le problème du financement. Ah, on a de grandes idées, mais si on n'a pas d'argent. Maintenant, il y a le problème des ressources. C'est maintenant des ressources humaines, des personnes qualifiées qui vont travailler, parce que nous, on n'est pas nombreux. On est combien actuellement? On est 9. Or, il faudra combien de personnes? Donc, c'était des handicaps qui vont se résoudre petit à petit. Donc, on a dit un problème de financement, problème des ressources humaines, problème de même notre environnement. Okay. Il y a beaucoup de choses. Même nos mentalités, parce que le plus difficile, c'est changer de mentalité. On a tendance à passer le temps à demander qu'on donne gratuit, à quémander. Au lieu de dire que j'ai confiance en moi-même, je deviens un entrepreneur. Même un agriculteur doit se dire, je suis un entrepreneur, je vais avancer, moderniser mon agriculture. Comment inculquer ça à la jeunesse et à la population pour qu'ils se prennent en charge? Parce que le problème est que l'État va installer, je ne sais pas, même un forage, mais au bout de 2 ou 3 ans, c'est en panne. Quand on va dire, mais pourquoi vous n'entretenez pas? Personne n'est responsable. Or, le développement, c'est d'abord la population qui veut. Donc, il faut que nous, on n'apporte qu'une aide, de sensibiliser. Même les partenaires, que ce soit l'État, les moyens qu'il déploie, il entretient une route. Si les gens ne s'occupent pas de ça, s'assurer, par exemple, on entretient une route en terre. Il pleut, on a dit les camions ne passent pas, il faut attendre 1 heure ou 2 heures. Mais les gens vont bousculer pour passer, pour détruire la route. Et ça veut dire qu'on n'a pas conscience du problème. Quand on dit construire une école, les gens construisent l'école avec de matériel qui n'est pas adapté. Dès la première pluie ou le premier vent, ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience que c'est notre affaire, c'est notre école, on doit bien la faire. Donc, le plus difficile, à mon sens, ce sera de changer de mentalité et que nous prenions en main notre propre développement. Et c'est ça, la vraie question.
Et quelles sont vos attentes vis-à-vis des populations de l'extrême nord dans l'exercice de vos fonctions?
Ah, mais j'attends beaucoup. Je veux que tout le monde s'implique dans le développement, donc, comme vous le faites déjà. Donc, il faut que les jeunes, les élites, la population prennent en charge leur propre développement. Nous, on ne peut apporter que les idées, apporter que des solutions. Si on a des financements, on peut leur apporter ça. Mais il faut qu'ils s'engagent, qu'ils veulent aller de l'avant. Aujourd'hui, je suis à pied, demain, je suis à vélo. Comme mon père me disait quand j'étais petit, quand tu n'as rien, tu fais la culture des champs, tu vends ton fagot de mille, tu achètes un poulet, tu la gardes bien et va se multiplier. Tu vends, tu achètes une chèvre et ainsi de suite. Et après, tu achètes un bœuf et après, ça te permet de te marier.
Ok. Monsieur le Président du Conseil Régional, une dernière question, nous allons d'ailleurs sortir par là. Ce bâtiment qui abrite vos services, est-il provisoire ou définitif? Car on a vu plusieurs maquettes circuler pour plusieurs régions, y compris celle de l'extrême nord.
Si, c'est provisoire, puisque c'est la délégation régionale du MINEPAT, du ministère de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. On nous a prêté, on nous a dit qu'on a 3 ans. 3 ou 4 ans pour donc trouver l'espace et construire notre siège. Donc c'est pour ça qu'on a eu des réunions déjà à Yaoundé avec le FECON qui a préparé les plans pour chaque région et on est actuellement en discussion aussi bien avec le ministère du domaine que le FECON. Le ministère du domaine pour avoir le terrain, le FECON pour finaliser l'étude architecturale et trouver du financement. Donc, on espère que d'ici 2 ou 3 ans, on pourra donc avoir notre bâtiment pour s'installer.
Ok. Monsieur Daniel Calbasso, vous êtes le président du Conseil régional de l'Extrême Nord. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci, madame, d'être venue jusque-là. Et puis, je remercie Radio Hosséré.
Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission, Une heure pour convaincre. Pour cette édition, nous avons présenté le Conseil régional en tant qu'une collectivité territoriale décentralisée qui vient d'entrer en fonction avec la publication de son organigramme le 28 décembre 2021. De par son organisation, il est une institution à travers laquelle les populations sont impliquées dans les décisions concernant leurs conditions de vie. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre édition. Je suis Nicole Massaï à la présentation. Restez scotchés au programme de Radio Osséré.